vous. Que la paix soit sur cette maison. Amen. Je garde toujours le souvenir d'une visite que nous avions faite avec mon épouse chez un couple sur le plateau est de Rouen. Et la dame, au cours de l'entretien, nous avait posé une question dans laquelle, je crois que c'est par la grâce de Dieu d'ailleurs, nous avions ressenti toute son angoisse. Avez-vous la paix? Avez-vous la paix? J'ai la paix. Nous avons la paix. Et nous avons encore plus. Nous avons le prince de la paix dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de religion. Je ne vais pas vous parler de politique non plus, rassurez-vous. C'est pas mon domaine. Je désire vous parler d'une personne extraordinaire. Jésus le Christ, le prince de la paix. Il n'est pas l'instigateur d'une nouvelle religion. Il est infiniment plus grand. Il est la révélation du Dieu vivant et vrai. Il est le Fils de Dieu. Avez-vous la paix? Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour vous? Alors bien sûr, s'il n'est qu'un personnage historique, il serait salutaire que vous ressortiez de ce lieu avec des certitudes concernant le pardon de vos péchés, concernant votre salut, concernant la vie éternelle. Amen. Alors n'attendez pas à demain. Aujourd'hui, pendant ces moments, mettez toute votre foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Alors, nous pourrions faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 6. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 6. Alors ce matin, je vais vous dire que des choses simples. Alors, si quelqu'un trouve que c'est pas assez consistant comme nourriture, ben revenez dimanche. Revenez dimanche. Pas de problème. Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main !» Il le fit, et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Jésus entra dans la synagogue. Est-ce que nous réalisons la signification et la portée de cette phrase? Jésus entra dans la synagogue. C'est un événement extraordinaire. Vous ne trouvez pas? C'est un grand miracle. Non? Que le Fils de Dieu entre dans une synagogue, moi je dis que c'est un événement plus que planétaire. Amen. La synagogue, vous savez, c'était le lieu où ils se réunissaient pour lire, étudier les Écritures, pour prier. Alors ceux qui étaient là n'ont pas réalisé la dimension de celui qui entrait. Les gens pensaient que c'était un prophète. Hein, d'autres, ils s'imaginaient que c'était un prophète qui était revenu à Lévi. Alors, ils disaient, c'est Élie, c'est Jean-Baptiste, c'est Jérémie. Et les religieux de l'époque, eux, ils ne pensaient qu'à lui tendre des pièges pour essayer de l'accuser et de l'éliminer. Alors ils avaient déroulé le tapis rouge pour un petit roi clé. Il y avait là le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui dont il est écrit, Colossiens 1,16, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous vous rendez compte? C'était un événement. Alors, peut-être à la décharge des gens de l'époque, il faut dire que Jésus n'est pas venu sur terre comme un Apollon. Ben non, il n'est pas venu dans un corps d'Apollon, il s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire pour venir sur cette terre. Le prophète Ésaïe avait prophétisé, Ésaïe 53:2, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Apparemment, c'est un homme ordinaire qui entre dans la synagogue. Alors, ne pensez pas, surtout ne pensez pas, qu'il ressemblait à ce que les images nous ont montré, ce que les peintres nous ont apporté avec une auréole autour de la tête. Il n'y avait rien de tout ça. C'est un homme ordinaire qui est entré dans la synagogue. Un de nos anciens chants disait « L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux ?» L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux ? Alors peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui se pose la question. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, Jésus ? Peut-être même quelqu'un se dit, moi à sa place, hein, je serais resté au ciel. Vous vous rendez compte ce qui lui est arrivé ? Alors la question se pose, pourquoi Jésus est venu ? Pourquoi donc Jésus est venu ? Excusez-moi, moi j'ai la bouche qui est sèche, c'est pas la main. La parole de Dieu nous donne la réponse. Et ce magnifique verset a encore été cité dimanche par notre frère Moïse Arou, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que Jonathan Pixeux croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec ça? Quel bon verset, quel doux verset de l'Écriture pour moi. Oui, mais ce quiconque, c'est aussi vous. Amen. Ce quiconque, c'est aussi toi, mon frère, mon ami, ma sœur. C'est parce qu'il t'aime. Et qu'il t'aime d'un amour infini qu'il a souffert la croix. Dieu a tant aimé ce monde déchu, ce monde en rébellion contre lui, que pour le sauver, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Celui qui faisait ses délices, le Fils unique. Alors Jésus n'est pas venu sur cette terre en touriste. Bien sûr que non, nous le savons. Il est venu avec une mission. Il est venu pour sauver les hommes et les femmes de toutes les générations. Personne ne lui a pris la vie. Personne ne lui a pris la vie. Il est venu en faire don pour nous sauver. Ami, sache qu'il a pris ta place. Il a pris ta place sur la croix de Golgotha. Il est mort pour ton péché sur la croix de Golgotha. Il a souffert, il en a payé le prix pour satisfaire la justice divine, la parfaite justice de Dieu. Alors, que personne, surtout personne ne s'imagine qu'il pourrait par quelques bonnes œuvres ou bonnes actions couvrir ses péchés et acheter le ciel. Surtout pas. Alors, si quelqu'un pense cela, j'ai deux infos pour lui. La première et la deuxième, bien sûr. La première, c'est que le ciel n'est pas à vendre. Si vous trouvez une annonce sur le bon coin, ce qu'il y a à vendre, c'est pas bon, c'est faux. C'est une escroquerie. Et sachez que la meilleure de vos bonnes œuvres n'a pas le pouvoir d'effacer le moindre de vos péchés. Il faut que ce soit clair, sinon Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Bien sûr que non. Alors la deuxième info, c'est la bonne nouvelle. Celle de l'Évangile, Dieu offre le ciel gratuitement à tous ceux qui se repentent et mettent leur foi en Jésus-Christ. Il suffit de peu de choses quand même, quand on regarde. Quelques mots de repentance dits avec le cœur. Regardez ce matin, certainement ce matin, vous allez sentir l'Esprit qui va vous pousser à demander pardon au Seigneur. Ne lui résistez pas. Ne lui résistez pas. Il suffit de demander au Seigneur et de recevoir Jésus dans notre cœur pour que Dieu change toute notre vie, qu'il accomplisse un miracle dans votre vie. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. À l'époque, j'étais adolescent et rebelle à Dieu. Je ne connaissais que les joies futiles et passagères de ce monde. Et quand je rentrais à la maison, aïe, 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 je ressentais un grand vide intérieur et la vanité de ma vie. Et oui, je ressentais profondément, c'était d'ailleurs une grâce de Dieu, de ressentir ces choses. Mais quand j'ai demandé pardon au Seigneur, quand je l'ai reçu dans ma vie, eh bien, j'ai eu ce sentiment qu'un lourd fardeau a été enlevé de mes épaules. J'étais devenu tout à fait, je me sentais léger, je me sentais bien. Une joie que je ne connaissais pas a pénétré mon cœur. Je pense que beaucoup parmi nous ont fait cette expérience. Or, si vous ne l'avez pas fait, faites-la ce matin. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ, demandez-lui pardon, recevez-le comme votre sauveur personnel. Alors, vous ne connaîtrez jamais ça en pratiquant des devoirs religieux. Vous ne connaîtrez jamais ça en adhérant à une religion ou à un système religieux. Vous connaîtrez cela en faisant confiance à Jésus-Christ. Vous connaîtrez ça en faisant une expérience personnelle avec lui. Alors certains pourraient dire, mais, moi j'aurais bien aimé être dans la synagogue. Ah, moi j'aurais pas été jaloux de lui comme les religieux. Oh non, je serais venu à Jésus, il m'aurait béni, il m'aurait guéri. Ah oui. Alors j'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. Il y a un miracle extraordinaire qui se passe en ce moment. Ici, au milieu de nous, Jésus est là. Il est là au milieu de nous. Alors vous êtes en droit de dire, mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille? Moi je le peux. Parce que Jésus en a fait la promesse quand il était sur la terre. Il a dit, Matthieu 18, 20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le grand je suis. Il est là ce matin au milieu de nous. Nous ne le voyons pas. Non. Mais il est toujours fidèle à sa promesse. Alors nous remplissons les conditions, deux ou trois, bon. Unis, réunis en son nom. C'est ce que nous avons fait ce matin. Merci Seigneur de ce qui nous a réunis. Alors j'ai eu le témoignage de, bon, je vous dis ça entre parenthèses, de personnes qui étaient là dimanche et qui ont dit, on voit que vous vous aimez. C'est beau ça. On voit que vous aimez. Eh bien, mes frères et sœurs, abondez toujours plus dans cet amour. Allez plus loin dans l'amour fraternel. C'est un objectif. Alors, nous constatons quand même que dans la promesse de Jésus, la beauté des lieux de culte, la grandeur des lieux de culte n'est pas en cause, il n'en parle pas. Bon. Il ne parle pas non plus de la religion pour promettre sa présence. Pas du tout. Il ne parle pas de la nationalité, du métier, de je ne sais pas quoi. Non. La promesse, elle est valable pour tous ceux qui croient en Jésus et en son œuvre. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alors, on ne peut pas dissocier la présence de Jésus de sa puissance, de son pouvoir divin, d'accomplir des guérisons, des miracles, des transformations, des consolations. Pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, on remarque, par exemple, Jean 20, 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il n'y a que quelques miracles de Jésus dans les évangiles, hein. Ils ne sont pas là tous, bien loin s'en faut. Mais en présence, vous avez bien compris, hein, Jésus a fait en présence de ses disciples. Alors, nous sommes ses disciples. Nous sommes dans sa présence, et il veut encore bénir ce matin. Il n'est pas changé. Il suffit qu'il trouve un peu de foi. Amen. Alors, on pourrait ne pas apprécier la promesse de sa présence à sa juste valeur, parce qu'on ne voit pas. Bien sûr. Il faut que notre foi, elle ait des yeux, il faut qu'elle ait des mains. Les mains de Jésus ce matin sont pleines de bénédictions pour nous. Il nous suffit d'un petit peu de foi. Que notre foi, elle ait des yeux, elle ait des mains pour saisir les multiples grâces que Dieu nous offre en Jésus. Alors, il m'est arrivé de me dire, mais si Jésus était visible, s'il était visible parmi nous, est-ce que je changerais quelque chose dans mon comportement? Est-ce que je changerais quelque chose dans mon accoutrement? Ah, c'est moi qui me pose ces questions-là. Bien sûr. Est-ce que je changerais quelque chose dans mon heure d'arrivée? Je ne sais pas. Moi, c'est les questions que je me suis posées. Mais peut-être que je suis une espèce en voie de disparition. C'est bien possible. Mais je crois que c'est symptomatique. Notre comportement peut traduire de l'incrédulité. On affirme que Jésus est là, mais notre comportement peut traduire le contraire. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est bon, je crois, de se remettre en question quelquefois, non? C'est pas ce que vous en pensez, vous. C'est bon de se remettre en question devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Alors, moi je ne vais pas être très long ce matin. On m'a parlé d'évangélisation, j'ai dit, je ne vais pas parler trois quarts d'heure. Mais après que Jésus est entré, il enseignait. Comme ça devait être merveilleux d'entendre Jésus enseigner. C'était autre chose que Jonathan Pixeux, je vous assure. Bien que nous avons la grâce de Dieu, merci Seigneur, ce qui nous aide, mais entendre Jésus. Alors, nous voyons que quand nous lisons les évangiles, qu'il n'enseignait pas des rites et des traditions seulement, d'une religion, il enseignait la vérité. Il n'enseignait pas des choses vaines ou la pratique de choses idolâtres. D'ailleurs, pour prendre un exemple, il enseignait comment prier. Il enseignait comment prier et à qui s'adresser. Et ça, c'est important, hein. C'est important. Il nous a donné un modèle de prière, le Notre Père, qui n'était pas dans la pensée du Seigneur quelque chose à répéter comme des moulins sans que le cœur participe. Il a dit, voici comment prier. Voilà. Alors d'ailleurs, Jésus a enseigné Par exemple, dans Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il a dit aussi, Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'est-ce que vous voulez plus ? Priez le Père dans le nom de Jésus, son Fils. Amen. Il nous a enseigné. Il nous a enseigné et nous enseigne encore aujourd'hui par sa parole. Lève-toi. Lève-toi. L'homme handicapé de notre texte a démontré sa foi. Quand Jésus lui a demandé, il s'est levé devant tout le monde. Il n'a pas craint de se lever, même devant les autorités religieuses qui étaient là et qui étaient hostiles. Il y avait des risques pour lui. Eh oui. Mais il s'est levé. C'est un geste de foi, quelque part. Alors vous êtes un peu, peut-être, comme cet homme. Si vous n'avez pas d'assurance concernant le pardon de vos péchés, vous êtes comme cet homme, il y a quelque chose de sec en vous. Mais Jésus est capable, amen, de désaltérer les cœurs secs. Il est capable de redonner vie aux foyers qui sont secs. Amen. À notre époque, c'est pas rien. Amen. Il est capable de redonner vie aux foyers qui sont secs. Amen. Tout est possible à notre Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Mettez en lui votre confiance. Mais il veut davantage. Il veut davantage. Il veut être votre Père. Il veut être votre Père. Il veut entrer dans votre cœur. Proverbe 23, 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent en mes voix. Mon fils, ma fille, ce matin, si tu ne l'as pas fait, donne-moi ton cœur. Amen. C'est le Seigneur qui te le dit. Ne résiste pas. Quel bonheur que de le connaître. Étends ta main. La main, c'est le symbole de l'activité, quelque part. On parle du travail de nos mains. Mais peut-être que quelqu'un, ce matin, par l'action puissante du Saint-Esprit, il réalise que toutes ses actions, peut-être même toutes ses paroles, toutes ses pensées ont été mauvaises quelquefois, et qu'il a besoin de s'humilier devant Dieu ce matin pour recevoir son pardon. Peut-être quelqu'un le réalise. Il a sur son cœur des actions qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas droites devant Dieu. Le Seigneur vous offre son pardon ce matin. Il veut effacer. Il veut effacer votre dette. Gloire au Seigneur. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont inventé une fausse sécurité. Quel dommage. Vous savez, ils ont un mini credo. Oh, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je fais de mal à personne. Moi, je suis quelqu'un de bien. Voilà. Alors, sur cette base-là, le ciel m'est ouvert. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ce matin, Jésus n'est pas là pour nous juger. Il est là pour sauver. Il est là pour bénir. Il est là pour guérir. Gloire à son nom. Mais un jour, il jugera le monde. Et ce ne sera pas sur la base des raisonnements. Ce ne sera pas sur la base de notre éducation. Ce ne sera pas sur la base des lois du pays. Que seront jugés ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu. Ce sera sur la base de la loi d'amour de Dieu. Lui-même. Ce sera sur la base de la loi d'amour de Dieu lui-même. Sur cette base, nous sommes tous condamnables. Nous sommes tous condamnables. Nous sommes tous pécheurs et perdus. Romains 3, 23, je vous lis dans la version français courante, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus qui délivre du péché. Amen. Oh, les beaux versets là aussi. Amen. C'est vrai que c'est une triste réalité. Tous ont péché. Moi aussi. Hein. Chacun. Hein. Et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui délivre du péché. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu, dans son amour, nous a donné un sauveur qui s'est chargé de nos fautes et en a payé le prix à la croix. Ce glorieux sauveur, il n'est pas resté dans le tombeau. Hein. Il est glorieusement ressuscité. Gloire à Jésus. Et il est là, au milieu de nous, pour nous bénir. Alors pour toi, peut-être qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, pour toi peut-être qui n'a pas l'assurance encore du pardon de tes péchés, qui doute encore, qui peut-être s'est lassé avec le temps, s'est laissé reprendre, pense que les mains de Jésus qui ont fait tant de miracles, guéri tant de malades, fait tant de bien dans ce monde, elles ont été percées pour toi, il les a étendues pour s'offrir aux horribles clous des Romains. En ce qui te concerne, c'était pour payer ta dette. Alors crois, mets ta foi en Jésus, reviens à la croix. Amen. Et il va te bénir. Tu vas retrouver, si tu te repens, si tu lui demandes pardon, tu vas retrouver cette joyeuse assurance dans ton cœur, du pardon de tes péchés, du salut de ton âme, de la vie éternelle. Le Seigneur te l'offre encore ce matin. Aujourd'hui, ses mains percées, veulent les poser sur chacun d'entre nous.